1793. Sur ce prix Moguet, mon cher Yves était sans reproche, comme il nous l'avait promis. Les officiers le traitaient avec des égards un peu particuliers, à cause de sa tenue, de sa manière d'être, qui n'était déjà plus celle de tous les autres. Et il restait malgré tout au premier rang de cette rude bande, dont le maître d'équipage disait avec orgueil « Ça, c'est moitié requin, ça n'a pas peur ». Il avait repris son habitude d'autrefois d'arriver le soir à petits pas de chat dans ma chambre, aux heures où je la lui abandonnais. Il s'installait à lire mes livres ou mes papiers, sachant bien qu'il avait la permission de tout regarder. Il apprenait à comprendre les cartes marines, s'amusait à y marquer des points et à y mesurer des distances. Très souvent, il écrivait à sa femme, et il arrivait que ses petites lettres, interrompues par la manœuvre, restaient à courir parmi les miennes. J'en trouvais une un jour qui était destinée sans doute à partir sous double enveloppe, et sur laquelle il avait mis cette adresse drôle, à Madame Marie Kermadec, chez ses parents, à Trémelay-en-Toulven, pays de Bretagne, commune des Loups, paroisse des Écureuils, à droite sous le plus gros chêne. On avait peine à se représenter ce grand Yves écrivant de ces choses de petit enfant. C'était sa première longue absence depuis son mariage. De loin, il se mettait à songer beaucoup à cette jeune femme qui avait déjà tant souffert par lui et qu'il avait tant aimé. Maintenant, elle lui apparaissait au fond de ce lointain sous un aspect nouveau. 94. En juillet, le mauvais mois de l'hiver austral, nous sortîmes de la région des Alizés pour redescendre jusqu'à Valparaiso. Là, je dus quitter le Primoguet et m'embarquer sur un grand vaisseau à voile qui rentrait à Brest après son tour du monde. Il s'appelait le Navarin. On y embarqua aussi tous les hommes de notre bord qui avaient fini leur temps de service. Entre autres, Barada, qui s'en allait à Bordeaux avec sa ceinture garnie d'or, épouser sa petite fiancée espagnole. Très brusquement, comme toujours, je dis adieu à Yves, le recommandant encore une fois à tous, et je partis pour la France par la grande route du Cap Horn. 95. 20 octobre 1882. Je me souviens de ce jour passé en Bretagne. Nous trois, courant sous le ciel gris, dans ces bois de Toulven, Marie, Anne et moi. Ma tête encore toute pleine de soleil et de mer bleue, et cette Bretagne revue tout à coup et si vite pour quelques heures, absolument comme dans les rêves que nous en faisions à la mer. Il me semblait comprendre son charme pour la première fois. Et Yves restait là-bas, lui, dans le grand océan. Le sentir si loin et me retrouver seul dans ces sentiers de Toulven. Nous courions comme des fous tous les trois dans les chemins verts, sous le ciel gris, elles avec leurs grandes coiffes au vent. La nuit allait bientôt venir, et c'était pour faire, pendant cette dernière heure de jour, la moisson de fougères et de bruyères bretonnes que je devais, le lendemain matin, emporter avec moi à Paris. Oh, ces départs, toujours rapides, changeant tout, jetant leur tristesse sur les choses qu'on va quitter et vous lançant après dans l'inconnu. Cette fois encore, c'était la grande mélancolie de l'arrière-automne. L'air restait tiède, la verdure admirable, presque l'intensité de vert des tropiques. Mais toujours ce ciel breton, tout gris et sombre, et déjà des senteurs de feuilles mortes et d'hiver. Nous avions laissé Petit Pierre à la maison pour courir plus vite. En route, nous cueillions les dernières digitales, les dernières silènes roses, les dernières scabieuses. Dans les chemins creux, dans la nuit verte, nous rencontrions les vieillards à longues chevelures, les femmes aux corselets de drap brodés de rangées d'yeux. Il y avait des carrefours mystérieux au milieu de ces bois. Au loin, on voyait les collines boisées s'étager en lignes monotones, toujours cet horizon sans âge du pays de Toulven, ce même horizon que les Celtes devaient voir, les derniers plans de la vue se perdant dans les obscurités grises, dans les tons bleuâtres qui passaient au noir. Oh, mon cher petit Pierre, comme je l'avais embrassé fort en arrivant sur cette route de Toulven. De très loin, j'avais vu venir ce petit bonhomme que je ne reconnaissais pas et qui courait à ma rencontre en sautant comme un cabri. On lui avait dit « C'est ton parrain qui arrive là-bas ». Et alors, il avait pris sa course. Il était grandi et embelli. avec un certain air plus entreprenant et plus tapageur. Ce fut à ce voyage que je vis pour la première et la dernière fois la petite Yvonne, une fille d'Yves, qui était née après notre départ et qui ne fit sur la terre qu'une courte apparition de quelques mois. Elle était toute pareille à lui, mêmes yeux, même regard. Étrange ressemblance que celle d'une si petite créature avec un homme. Un jour, elle s'en retourna dans les régions mystérieuses d'où elle était venue, rappelée tout à coup par une maladie d'enfant à laquelle ni la vieille sage-femme, ni la grande penseuse de Toulven n'avaient rien compris. Et on l'emporta là-bas, au pied de l'église, ses yeux semblables à ceux d'Yves, fermés pour jamais. Dans ces bois, nous avions passé nos 2 heures de jour. Après souper seulement, nous étions allés, Marie et moi, voir au clair de lune où en était leur nouveau logis. À la place du champ d'avoine que nous avions mesuré en juin de l'année précédente, s'élevaient maintenant les 4 murailles de la maison d'Yves. Elle n'avait encore ni auvent, ni plancher, ni toiture, et au clair de lune, elle ressemblait à une ruine. Nous nous assîmes au milieu, sur des pierres, nous trouvant seuls tous deux pour la première fois. C'est d'Yves que nous parlions, cela va bien sans dire. Elle m'interrogeait anxieusement sur lui, sur son avenir, pensant que je connaissais plus profondément qu'elle ce mari qu'elle adorait, avec une espèce de crainte, sans le comprendre. Et moi, je la rassurais, car j'espérais beaucoup. Le Forban avait pour lui son bon et brave cœur. Alors, en le prenant par là, nous devions à la fin réussir. Anne apparut tout à coup, venue sans bruit pour écouter, et nous fit peur. « Oh, Marie, dit-elle, change de place bien vite, si tu voyais derrière toi comme c'est vilain, ton ombre. » En effet, nous n'y avions pas pris garde. Sa tête seule, éclairée par la lune, avec les ailes de sa coiffe qui remuaient au vent, donnait derrière elle, sur le mur tout neuf, l'image d'une chauve-souris très grande et très laide. C'était assez pour nous porter malheur. Dans Toulven, les binious sonnaient. Pour rentrer à l'auberge, où elles venaient toutes deux me reconduire, il nous fallut traverser une fête inattendue, éclairée par la lune. C'était une noce de riches, et on dansait en plein air sur la place. Je m'arrêtai avec Anne et Marie pour regarder la longue chaîne de la gavotte tournoyer et courir, menée par la voix aigre des cornemuses. La belle lune rendait plus blanches les coiffes des femmes qui passaient devant nous comme envolées dans le vent et la vitesse. On voyait sur la poitrine des hommes briller rapidement les gorgerins brodés, les paillettes d'argent. À l'autre bout de Toulven, encore du monde. Cela ne semblait pas naturel, cette animation dans le village, la nuit. Encore des coiffes qui couraient, qui se pressaient pour mieux voir. C'était une bande de pèlerins qui revenaient de Lourdes et faisaient leur entrée en chantant des cantiques. Il y a eu 2 miracles, monsieur. On l'a su ce matin par le télégraphe. Je me retournai et vis Pierre Kerbras, le fiancé d'Anne, qui me donnait ce renseignement. Les pèlerins passèrent, ayant au cou leur grand chapelet. Derrière, il y avait 2 vieilles femmes infirmes qui n'avaient pas été guéries, elles, et que des jeunes rapportaient dans leurs bras. Le lendemain matin, le vieux Corentin, Anne et le petit Pierre, en habit de dimanche, vinrent me reconduire dans le char à banc de Pierre Kerbras jusqu'à la station de Banalec. Dans le compartiment où je montais, 2 vieilles dames anglaises étaient déjà installées. On me fit passer petit Pierre, sa bonne figure couleur de pêche dorée, embrassée par la portière, et il éclata de rire, lui, en apercevant un petit chien boule que les ladies portaient dans leur sac de voyage armorié. Il avait pourtant du chagrin parce que je m'en allais. Mais ce petit chien dans ce sac, il le trouvait si drôle qu'il n'en pouvait plus revenir. Et les vieilles ladies souriaient aussi, disant que petit Pierre était « a very beautiful baby ». Et puis ce fut fini de la Bretagne pour longtemps. J'y avais passé 20 heures, et le lendemain matin, elle était déjà bien loin de moi. 96. Lettre d'Yves. Melbourne, septembre 1882. Cher frère, je vous fais savoir notre arrivée en Australie. Nous avons eu une traversée tout à fait belle, et nous devons repartir demain pour le Japon. car vous savez que nous avons reçu l'ordre de faire un petit tour dans ce pays-là. J'ai trouvé ici deux lettres de vous et aussi deux de ma femme. Mais j'ai bien hâte de lire celle que vous m'écrirez quand vous aurez passé par Toulven. Chers frères, votre remplaçant à bord est tout à fait comme vous. Il est très bon avec les marins. Tant qu'au remplaçant de M. Plumkett, il est assez dur, mais pas à mon égard, au contraire. M. Plumkett m'avait dit qu'il m'aurait recommandé à lui en partant, et c'est une chose que je croirais assez. Les autres et le major sont toujours de même. Ils me parlent souvent de vous et me demandent de vos nouvelles. Le commandant m'a donné à faire le service de second maître depuis que nous avons jeté à l'eau le pauvre Marsano, le Niçois, qu'on a trouvé tué un matin dans son hamac en faisant le branle-bas. Et j'aime beaucoup ce service-là. Chers frères, on a envoyé deux fois les marins se promener à terre à San Francisco, et vous pensez, sans vous, je n'ai pas seulement donné mon nom pour descendre avec eux. Même, je vous dirais que les gabiers ont fait une grande barouffe la seconde nuit contre les Allemands, et il y a eu du mal avec les couteaux. J'ai aussi à dire, chers frères, qu'on n'a pas encore ôté votre carte de dessus la porte de votre chambre, et je pense qu'on l'oubliera tout à fait à présent. Alors, le soir, je fais mon tour par le faux pont arrière pour passer devant. L'année prochaine, quand nous reviendrons, j'ai espoir d'avoir une bonne permission pour aller voir ma femme et mon petit Pierre et ma petite fille. Mais ce sera toujours bien court, et certainement je ne serai jamais tranquille avant d'avoir ma retraite. D'un autre côté, quand je serai d'âge à laisser l'école bleue, mon petit Pierre sera prêt de partir pour le service, lui, à son tour. Ou bien il y aura peut-être une place pour moi là-bas, du côté de l'étang, vers l'église. Vous savez quelle place, je veux dire. Chers frères, vous croyez que je prends des manières comme vous? Mais non, je vous assure, je pense comme j'ai toujours pensé. Pour les têtes de coco, je crois bien qu'elles sont perdues, car nous ne passerons pas en Calédonie. Mais enfin, plus tard, je pourrai peut-être y revenir et en acheter. Si vous passiez par le golfe Juan, vous me feriez bien plaisir d'aller à Valoris prendre pour moi deux de ces flambeaux, comme ils en font dans ce pays, et qui ont des têtes de perruches de France. Ça m'amuserait beaucoup d'en mettre comme cela chez moi. J'ai bien hâte, frère, d'installer ma petite maison. Parmi toutes espèces de choses qui me rendent triste quand je me réveille, ce qui me fait le plus de peine, c'est que ma mère ne veut plus du tout venir demeurer en Toulven. Il me semble que si je pouvais avoir une permission pour aller la chercher, avec moi, pour sûr, elle viendrait. Mais d'un autre côté, alors, je n'aurai plus personne à Plouerzel. Et ça, c'est encore une chose que j'aime mieux ne pas penser. Car Plouerzel, c'est tout à fait notre pays, vous savez bien. Si je pouvais croire ce que vous m'avez dit souvent au sujet de revivre après qu'on est mort, il est sûr que je me trouverais encore assez heureux. Mais, tenez, je vois bien que vous-même, vous n'y croyez pas beaucoup. Pourtant, je trouve très drôle que j'ai peur des revenants, et je croirais assez, frère, que vous en avez peur aussi. Je vous demande bien pardon de la feuille sale que je vous envoie, mais ce n'est pas tout à fait moi la cause. Vous comprenez, je n'ai plus votre bureau à présent pour faire des lettres dessus comme un officier. Je vous écrivais assez tranquille à la fin de mon quart de nuit sur les caissons de l'avant, et alors l'idiot de l'œillir m'a chaviré ma bougie. Je n'ai pas le temps de faire ma petite écriture à ma façon, comme je fais quelquefois, vous savez, celle que vous trouvez jolie. J'écris à courir et je vous demande bien pardon. Nous partons demain matin dès le jour pour ces pays du Japon. Mais je vous ferai parvenir ma lettre par le pilote qui viendra nous mettre dehors. Je termine en vous embrassant bien des fois de tout mon cœur, votre frère Yves Kermadec. Cher frère, je ne puis dire combien je vous aime. Yves. 97. Décembre 1882. Je passais sur les quais de Bordeaux. Quelqu'un de fort bien mis vint à moi, le chapeau bas et la main tendue. Barada. Barada transformé, ayant coupé sa barbe noire et quitté ses 31 ans, sans doute, en même temps que ses cols bleus. Les joues soigneusement rasées, la moustache naissante, l'air d'un jeune amoureux de 20 ans. Toujours aussi parfaitement beau et noble de ligne, mais la figure meilleure et plus douce, comme éclairci par une joie profonde. Il venait d'épouser enfin sa petite fiancée d'Espagne. L'or de sa ceinture avait monté son ménage, et il s'était fait arrimeur de navire, un métier très lucratif, paraît-il, où il utilisait à merveille sa grande force et son instinct du débrouillage. Il fallut lui promettre par serment qu'au retour du Primauguet, je passerai par Bordeaux avec Yves pour venir le voir. Il était heureux, celui-là, et la fin de ce rouleur de mer me donnait à réfléchir. Je me demandais si mon pauvre Yves, qui, avec un cœur aussi bon, avait assurément beaucoup moins forfait aux lois honnêtes, ne pouvait pas, lui aussi, finir un jour par un peu de bonheur. 98. Télégramme. Toulon, 3 avril 1883. À Yves Kermadec, à bord du Primauguet, Brest. Tu es nommé second maître. Je t'embrasse, Pierre. C'était sa joyeuse bienvenue, sa fête d'arrivée. Car depuis 24 heures seulement, le Primauguet, revenu de sa promenade lointaine dans le grand océan, avait mouillé dans les eaux de France. Et ces galons d'or que j'envoyais à Yves par le télégraphe, il ne les arrosa pas, comme il avait fait jadis de ses galons de laine. Non, les temps étaient changés. Il se sauva dans le faux pont, dans un coin où se trouvaient son sac et son armoire, et qu'il considérait comme son chez-lui. Vite, il descendit là, pour être tout seul à envisager cette joie qui lui arrivait, à relire ce bienheureux petit papier bleu qui lui ouvrait toute une ère nouvelle. C'était si beau, si inattendu, après sa mauvaise conduite passée. J'avais été à Paris demander cette faveur, intrigué beaucoup pour mon frère d'adoption, en me portant garant de sa conduite à venir. Une femme de cœur avait bien voulu employer à ma cause son influence très puissante, et alors la promotion d'Yves avait été enlevée d'assaut, bien qu'elle fût difficile. Et Yves n'en finissait plus de regarder son bonheur sur toutes ses faces. D'abord, au lieu d'avoir à demander une permission courte qu'on lui eût peut-être beaucoup marchandée, avec ses galons d'or, il allait partir de droit pour Toulven. On allait l'envoyer en disponibilité pendant 3 mois au moins, 4 peut-être. Il aurait tout l'été à passer là, avec sa femme et son fils. Dans la petite maison qui était finie, et où on l'attendait justement pour tout installer. Et puis ils allaient se trouver très riches, ce qui ne gâterait rien. Non, jamais dans sa vie de pauvre errant, toujours à la peine, jamais il n'avait eu une heure si belle, une joie si profonde que celle que son frère Pierre venait de lui envoyer par le télégraphe.